National news from a grassroots perspective. You're listening to Groundwire, community news from coast to coast to coast.
Vous écoutez à Groundwire, le magazine d'actualité des radios communautaires du Canada. Today on a special bilingual episode of Groundwire.
In this sort of dominant narrative of all criminals is, you know, the worst of the worst of Canadian society or something like that. I'm trying to really challenge people in a town that is so captured by the prison industrial complex.
Les gens risquent d'être arrêtés et de perdre leur réputation.
We've never agreed with these mines to be in our territory in the first place. This has devastated the salmon population. It has contaminated fresh water.
Hello, bonjour, et bienvenue à Groundwire. Je m'appelle Véronique Hines.
And I'm Rachel Swatek. Groundwire is a grassroots news program brought to you by the National Campus and Community Radio Association.
Groundwire est un programme d'actualité populaire présenté par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
This week, Groundwire is produced on unceded Algonquin territory at CHUO in Ottawa, Ontario.
Cette émission de Groundwire était produite sur les territoires algonquins non cédés à CHUO à Ottawa.
Coming up, direct action against the Line 9 pipeline and highlights from CFRC Kingston's Prisoners' Justice Day.
Et un reportage au sujet de la radio communautaire à CGLY à Nelson, en Colombie-Britannique, où un groupe partage l'histoire francophone de la province d'une façon très unique.
That's all coming up on this edition of Groundwire, but first, here are the headlines. Our first story comes from Sarah Newton at Whistle Radio in Toronto.
This is Sarah Newton reporting from Toronto, where the Sequipemc Women's Warrior Society and their allies held an emergency rally at the Toronto Stock Exchange last week to demand the federal government force the Toronto Stock Exchange to pull Imperial Metals off the TSX. This action was in a response to the devastating Mount Polly Imperial Metals tailings spill in the Sequipemc territory in BC earlier this month. The tailings pond breach and toxic spill disaster by Imperial Metals in the Cariboo region in early August sent 10 million cubic meters of a toxic-like slurry along with 4.5 million cubic meters of fine sediment into Polly Lake, Hazelton Creek, and the Quesnel Lake, which has had huge and devastating impacts on drinking water quality, farming, and salmon runs. Though the government of BC has already deemed the water safe enough to drink, Sequipemc warrior women such as Canahas Manuel claim that nothing has been done yet by Imperial Metals to address this monumental environmental disaster that occurred on Aboriginal lands. The Sequipemc chiefs have also announced that Imperial Metals must shut down business within the Sequipemc Nation and has also called on a moratorium on mining within their territories, one of the biggest Indigenous nations in BC. In a press release, Grand Chief Stuart Phillip has stated these spills by Imperial Metals and other mining companies occur as a consequence of weak environmental review procedures and questionable federal omnibus bills such as C-38 and C-45, which many view as mere processes of rubber stamp approvals that shamelessly pander to industry at the great expense of environmental devastation.
My name is Canahas Manuel. It means red woman. I'm from the Sequipemc Nation in so-called British Columbia. I'm here at the Toronto Stock Exchange to directly target Imperial Metals. Imperial Metals is the company that's responsible. The tailings dam broke, and there's actually no cleaning taking place by the government or this company right now. This is a disaster. It's the biggest environmental destruction in the history of British Columbia that took place. There's a lot of people that aren't aware of it here on the East Coast, but it affects all of us. We need to put stricter regulations so nothing like this happens again. Indigenous territories are fed up. We've never signed treaties in BC. Our lands are unceded, unsurrendered. We've never agreed with these mines to be in our territory in the first place. This has devastated the salmon population. It has contaminated fresh water. And we need the whole country to wake up that mining is not good for our country.
That was Sarah Newton in Toronto. Du 21 au 24 août, Ottawa accueille le Forum social des peuples. Selon les organisateurs, c'est près de 10 000 militants issus de divers milieux qui convergeront pour discuter des enjeux les plus importants. L'événement se tiendra sur le campus de l'Université d'Ottawa et c'est plus de 500 ateliers et conférences pendant les 4 jours du Forum. Darius Mirshahi, un des coordinateurs, explique que le Forum sera une occasion pour créer des liens entre les militants venus de partout au Canada. traduit en français par Olivier Charbonneau.
Right now, I think it's really important for
c'est vraiment important pour un mouvement. Nous avons vu dans les dernières années au moins 3 gigantesques manifestations sociales. Il y a eu le mouvement En Marche des Olympiques en 2010. Il y a eu Occupy dans plusieurs villes du pays et du monde en 2011. Il y a eu la grève étudiante au Québec qui a réussi à faire bouger le gouvernement. Et bien sûr, il y a eu Idle No More qui a permis de réaffirmer notre identité et nos droits autochtones. Ça a été tellement gros dans les derniers 4 ans. Qu'il est important en ce moment, dans une période un peu plus creuse, de se rencontrer et planifier comment on peut mieux s'aider pour les prochaines luttes.
From August 21st to 24th, Ottawa is hosting the People's Social Forum. Organizers say they expect about 10,000 activists and people involved in social movements to come from across Canada to learn from each other and create networks. The forum's organizing committee says the 4-day event will take place at the University of Ottawa's downtown campus and feature more than 500 workshops. Coordinator Darius Mirshahi says he hopes the forum will create and support networks for players in Canadian social movements to work together.
Right now, I think it's really important for our movements because, you know, we've seen four massive waves of social movements and of protests and in the last 4 years, right? There's been the Olympics G20 convergence in 2010. There's been Occupy that just swept across the country and across the world in 2011. There's the student strike that basically toppled the government in Quebec, and there's been Idle No More, which has really like led to a resurgence of direct action and cultural reclamation amongst original peoples across Turtle Island. So there's been such huge waves of movements in such a rapid pace over the last 4 years that I think it's really important that right now, while we're kind of in between those waves and the next wave, that we really link with each other, strategize, and talk about how we can support each other better when the next wave comes, and how we can build these links so that when any one of our groups or any one of our movements goes on the offensive or really starts pushing back against the attacks that are coming down on us, that other movements will stand in solidarity.
That's all for headlines. You can visit us online at groundwire.ncra.ca.
You're listening to Groundwire, le magazine d'actualité des radios communautaires de l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires. National Community Radio from the National Campus and Community Radio Association. And now for our feature stories.
In the following feature, reporter Ophira Horowitz speaks with Eliza Patrone about direct action against the Line 9 pipeline in southern Ontario.
Du 5 au 10 août, une manifestation a bloqué l'accès à un site de construction de l'oléoduc Line 9 d'Enbridge au comté d'Oxford, Ontario, près de la rivière Thames. Ils protestaient l'impact du transport des extraits des sables bitumineux à travers des villes, des bassins versants et des terres agricoles situées de l'ouest jusqu'à l'est du pays. Ophira Horowitz a fait une entrevue avec Elisa Patrone, une manifestante.
Des activistes ont employé des diverses techniques pour arrêter la construction de l'oléoduc. Votre groupe a mené une action directe contre celui-ci. Pouvez-vous me dire de quoi s'agit-il exactement, une action directe?
OK, oui. Une action directe, à mon avis, c'est une désobéissance civile non violente. Par exemple, l'action directe, dans le passé, pouvait s'agir de s'asseoir l'avant de l'autobus au lieu qu'à l'arrière de l'autobus, ou s'asseoir sur la rue pour bloquer la circulation. Mais dans notre cas, c'était bloquer les rues pour empêcher les travailleurs d'Enbridge d'aller construire l'oléoduc. Mais avec le direct, l'action directe, on sait qu'il y a encore des risques associés avec ça. Les gens risquent d'être arrêtés et de perdre leur réputation. Et je pense que ces risques inspirent un plus grand nombre, ou j'espère que ça inspire un plus grand nombre de personnes à s'engager sur ce terrain, au lieu de faire, par exemple, la résistance passive, ça veut dire être sur une armoire, regarder sur Facebook et cliquer « like » sur les pages.
Pourquoi est-ce que l'action directe est importante dans la lutte contre l'oléoduc 9?
Vraiment, nous avons tout essayé. Nous avons fait des efforts de lobbying sur chaque niveau du gouvernement. Nous avons tenu des activités communautaires, des contestations juridiques, faire participer les membres de l'Office national de l'énergie pour lutter contre la corruption. Mais, you know, le pipeline, c'est déjà eu c'était accepté et on sait que ces tactiques n'ont pas marché. Alors, je trouve que la directe action, c'est notre dernière chance.
Le jour après que les activistes ont été expulsés du camp, un nouveau camp a été établi immédiatement par le groupe Rising Tide à North York. 6 nations autochtones ont participé au projet. On peut dire vraiment qu'il y a une série d'actions directes contre l'oléoduc tout au long de l'été. Selon vous, est-ce qu'il y a une escalade dans le mouvement des activistes?
Oui, j'ai vu que Rising Tide a fait ça le lendemain. C'était excellent, j'étais vraiment contente pour voir ça. Nous espérons que nos actions ont motivé des nouvelles actions directes. Même si des activistes ont été expulsés de notre camp, je suis heureuse qu'une nouvelle action ait été développée. Et j'espère qu'encore on va voir cet phénomène. Mais au même temps, on sait que l'oléoduc a été approuvé. Je pense que la contestation des nations autochtones va être probablement rejetée. Et je pense que la construction sur l'oléoduc va commencer quand Enbridge le veut. Mais toutefois, je sens encouragée car oui, il y a eu une escalade dans le mouvement des activités dans les dernières années. J'ai vu ça avec mes propres yeux et je suis certaine que cela va continuer dans les prochaines années. Même si les sables bitumineux vont passer dessus mes pieds, je sais qu'il y aura encore des batailles contre les oléoducs et je sais que encore plus de gens vont être informés et encouragés et motivés pour prendre l'action directe.
Merci.
Merci à vous.
Maintenant, un résumé de la journée pour la justice des prisonniers à CFRC Kingston.
On Sunday, August 10th, Kingston community members gathered at a rally and vigil to remember all people who have died unnatural deaths while incarcerated in Canadian prisons, and to demand justice for those currently incarcerated. This report from Brenna Owen of CFRC 101.9 FM features song, remarks by the event's organizers, End the Prison Industrial Complex, or EPIC, and a statement and poem by inmates incarcerated in Kingston institutions.
EPIC stands for End the Prison Industrial Complex. We're an anti-prison group collective in Kingston. We sort of emerged out of the prison farms movement in 2010. We wanted to bring an analysis to that movement that was focusing on prison issues and specifically prison expansion. So after that, we focused on trying to oppose the building of new maximum security units in the Kingston area because they built 2,000 beds in the Kingston area alone in the last 4 years. We're all anarchists in the group, so we're sort of approaching this as prisons as the most overt expression or one of the most overt expressions of oppression in the Kingston area. And this sort of dominant narrative of all criminals as, you know, the worst of the worst of Canadian society or something like that, and trying to really challenge people in a town that is so captured by the prison industrial complex, where almost every industry has a tie to incarceration.
We are still viewed as something less than human, non-citizens whose treatment goes unseen in a mostly uncaring society. Until convicts are treated with dignity, humanity, and respect, it will be difficult to prevent the emotional scarring, traumatic stresses, and social withdrawal that so often precede and cause recidivism and other failures to reintegrate into society. The farther we are pushed away, the longer we have to go to come back. The system currently is not capable of treating us as people. Sometimes there are extenuating circumstances, like when you are about to die and your children want to make up whatever lost time they can while it is still possible. A system that fails to address and accommodate such unavoidable human situations, however outside the norm of desired patterns of behavior they might fall, fails in its attempts to act humanely. I tell you that the best way to turn a human into an animal is to put them in a cage. It is a tragedy to see how degradation of status, the negation of our very humanity, is so much embedded and embodied in the system of criminal incarceration. In a world where routine and systemic dehumanization of thousands of Canadians takes place within our cherished social institutions, while average citizens turn a blind eye to the practice, There exists a small remnant who stand by us year after year. They correspond, speak with, and visit prisoners within the institutions, giving us a handhold on reality and the world outside that tries so often merely to push us away. So we thank you, the supporters, family, friends, activists, colleagues, and citizens who have gathered today in Market Square, around radios to listen to CFRC Kingston and other stations broadcasting our messages, and at events and actions around the world. To know that you are there, indeed, people who are interested in examining the criminal correctional system to see if it works, and if not, how it fails and how it might be fixed, makes a world of difference to us in a world that today is otherwise indifferent.
What is prison? I do not know, but I'll tell you what it isn't. It isn't life, it isn't living, nor more than existing, unless, of course, you're resisting. For somehow in that daily struggle to survive, you confront spiritual death and recognize you're alive, heart beating and breathing still, feeling and thinking, afraid of what? The ship sinking? It's already sunk. What's left is the man in the mirror you confront. If you have a voice, you have a choice. Even though you will face opposition, your opponents will be forced to respect a well-thought-out position. And yes, there will be haters. There always are. It's a sign of success, and it's kind of a test, and they matter the less the more you weather their storm in absolutely refusing to conform. So what can I do? I'd say that's a good start. Start with that question, and then search your heart. What seems to matter? Choose one thing and take action. Write something. Watch their reaction. If you can't type, that's all right. Use a pencil and pad, store your thoughts somewhere. You'd be surprised how many you have, and if writing's not your thing, that's fine too. It's just one of the things that you can do. Pick up a book, engage your mind, you'll be amazed what you will find, and you don't have to read to resist, but a little Karl Marx would sure assist in this struggle that we call class. We will regain consciousness as these days pass, because we harbor unique knowledge. The kind they don't teach inside a college. It's experiential and so essential to those inside ivory towers. They call it empirical, while here in this medium we call it lyrical. But I digress. The point is to refuse to be repressed by any sort of oppressive regime, and while they regress towards the mean, we must progress by any means possible, permitting that we've done our thinking to prevent ourselves from sinking to their level when resisting. But all the same, we must respect this game for what it is. There are winners and there are losers. Failure to act today could mean tomorrow we are useless. So on this day when we collect our thoughts and pay respects to those who fought and fell victim to an unnatural death in an unnatural system that exploits people's breath by keeping them caged and locked in a cell, solitary confinement, a literal hell, whatever the conditions of prison might be, it must be resisted, this PJD. And how do you resist something so inhuman? By being human.
You were just listening to highlights from Prisoners' Justice Day at CFRC Kingston. This next feature comes from Catherine Fisher at CJLY in Nelson, British Columbia.
Catherine Fisher discute des critiques du développement d'un nouveau complexe touristique en Colombie-Britannique.
It's just another manipulation of the government to go forward in cahoots with these corporations to create this development that is so damaging in so many ways. They continue to make us pay the price, and we will continue to pay the price.
That's Marilyn James, spokesperson for Senex Nation. She's speaking about the Jumbo Resort, a large ski and recreation city proposed to be built on ecologically sensitive glacial land in the Purcell Mountains in what is now called southeastern British Columbia. The ski and resort project, if built, is expected to require construction of 23 ski lifts and accommodation and amenities for more than 6,000 people. Senex Nation oppose this project because it will adversely affect ecological values in the area they call Pixmikum, white grizzly bear in the Senex language. The Jumbo Pass is an area of core sustenance for grizzly bears in the region and also home to ecologically significant wolverine mountain goat and West Slope cutthroat trout populations. Jumbo is also an important transit area for the endangered mountain caribou. The nearby Tanaha Nation also opposes the proposed resort city, as do many others. People opposed say the planned luxury resort is financially unviable and will have adverse and irreparable effects on the ecosystem. They also worry because BC taxpayers will have to pay for the maintenance of the necessary roads and amenities in support of this privately owned project. Many also believe that the BC government's process in approving the project has been undemocratic and improper. In 2009, the resort's developer, Glacier Resorts Limited, applied to the regional district of the East Kootenay to have the site zoned for development. The RDEK sent it on to the provincial government. The government, encouraged by Minister Bill Bennett, responded by passing Omnibus Bill 41, which created a mountain resort municipality and appointed a mayor and council to make land use decisions for the project. At the time of approval, the provincial government said in a press release they believed the resort municipality is the governance structure best suited to administering development of the resort. Project supporters argued that the RDEK's decision to delegate approval of the project to the province was democratic. Project opponents call it a fake municipality, citing the fact that it has no residents, no infrastructure, and no tax base, and that its provincially appointed officials are accountable only to the Jumbo Resort Master Plan, therefore only to the minister and the project developer. To date, the provincial government hasn't responded publicly to these concerns. The proponent argues that the BC Environmental Assessment Office has found the project to be in the broad public interest. In 2013, the West Kootenay Eco Society submitted an application for judicial review, arguing that the creation of this resort municipality and the appointment of municipal councillors without any electors violates the Canadian Constitution and various provincial statutes. On August 5, 2014, the Eco Society filed an amended petition to its legal challenge. Executive Director of the Eco Society, David Reed, says he thinks the project could set a concerning precedent.
If there's a development, whether it's a real estate development or a resource extraction project or something that is opposed broadly by the community, but for some reason the minister or the certain government in power wants to see that happen, can they just create a municipality and appoint a city council and mayor to do the work of the private company? That's essentially what's happened here in the letters patent that create the municipality. Specifically says that the city council can't do anything that would undermine or affect the developer.
The Eco Society, in conjunction with WildSight, another local environmental organization, are also setting up a public monitoring camp on the Jumbo Valley Road starting on August 20th. Here's Robin Duncan, Operations Director at WildSight, speaking about the planned Jumbo Wild Camp.
The proponent need to have substantial construction started by October 2014 or else their environmental certificate will expire. And we'll be asking people across the Kootenay region that care about Jumbo to help us and join us in monitoring and ensuring that they do not move forward on construction this year.
This is Catherine Fisher reporting for Groundware. Thanks to Bruce Edson and the Ecocentric Radio Program for files.
And now for Groundwire's Community Radio Report from Nelson, British Columbia, where the Francophone Association of the West Kootenays is working to spread Francophone culture and history.
Une association francophone de la Colombie-Britannique remettra en valeur le patrimoine en créant trois marionnettes géantes de pionniers francophones qui ont influencé l'histoire des Kootenays West. Plusieurs francophones se sont installés dans cette région dès le début des années 1900. Voici deux extraits d'audio tirés de Millimello, l'émission de radio hebdomadaire de l'Association des francophones des Kootenays West. Elle est enregistrée en direct tous les vendredis matins à la Kootenay Co-op Radio, CGLY 93.5 FM, à Nelson et rediffusée à travers plusieurs radios communautaires.
On a en studio avec nous Willem Castonguay. Bonjour Willem.
Allô.
Tu es ici dans quel cadre, en fait? Parce que tu n'habites pas à Nelson, vraiment, toi, d'habitude.
Non, moi, je suis du Québec.
Puis là, tu es de passage à l'Association des francophones des Kootenays West pour tout l'été?
Oui, pour tout l'été. Je travaille, en fait, sur le projet des marionnettes géantes. Je te laisse l'expliquer ou je sais pas?
Le projet des marionnettes géantes, ça se trouve à être un projet de création de marionnettes pour représenter les pionniers francophones qui ont marqué l'histoire des Kootenays West. Et ce projet-là a commencé en juillet et se terminera à la fin mars 2015. C'est-à-dire qu'il y a Rose Hudon qui habite à Caslow et qui est une marionnettiste et qui va faire les marionnettes. Et là, on parle de 12 pieds de, entre 10 et 12 pieds de haut des marionnettes géantes. C'est elle qui veut construire les mains, la tête et les, le harnais, si tu veux, pour les avoir sur nous. Et Madeleine Arsenault, qui va faire tous les costumes. Et Caroline Giguère, qui va faire la chef d'orchestre, parce que les marionnettes, trois marionnettes seront accompagnées de musiciens pour représenter la musique francophone. Et c'est ça, je peux pas trop tout en dire parce qu'il y a des surprises dans ça. Et entre autres, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les trois personnages, très rapidement, c'est Henri Bourgeois, qui habitait à Crescent Valley, et Élie Carpentier, dans le coin de Sandon et Silverton, et Joseph Patnaud de Nelson. Donc, il y avait des francophones un peu partout dans la région. Willem s'occupe de faire la recherche et de trouver les textes et de découvrir, de déterrer des choses intéressantes pour nous. Et là, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de Louis Choquette. C'est
oui.
Louis, hein?
Ludger H. Choquette.
Excusez-moi, okay. Monsieur Choquette.
Ben, bonjour tout le monde. Surtout un petit bonjour spécial aux Choquettes, vu qu'aujourd'hui, c'est de l'origine d'eux que je vais parler.
Oui.
Si j'ai décidé de parler de Ludger Choquette, c'est parce qu'il a permis à deux des trois de nos futures marionnettes à s'installer ici. La première, c'était Henri Bourgeois. Avant d'aller à Creston, il est venu à Nelson et il a travaillé pour Choquette dans sa boulangerie. Donc, un emploi, ça aide à déplacer le monde. Je suis sûre que vous êtes d'accord.
C'est encore le cas. Hein?
Oui,
si
c'est ça.
Si tu n'as pas d'emploi, tu ne déménages pas souvent à Nelson.
Tu ne restes pas longtemps. Sinon, il a aidé Joe Patnaud à venir ici. C'est une autre raison qui est toujours d'actualité. C'était de la famille. Donc, quand on connaît quelqu'un qui vit quelque part, c'est plus facile d'y aller, mettons.
Oui.
On a assez parlé de ces deux-là. On va revenir sur Choquette. Lui, il est né en 1873 au Mont-Saint-Grégoire, à Iberville, au Québec.
OK.
Oui. Il serait venu probablement en train, puis ensuite, il serait venu avec des bateaux moteurs jusqu'à Nelson, en fait.
Et bateaux à vapeur?
À vapeur,
oui, c'est
pas
vrai. Il y en a beaucoup ici.
Oui, ceux avec les grandes roues, là.
Oui.
Exactement. Avant de s'en venir, toujours au Québec, il a épousé Joséphine Beauregard en 1892, donc autour de ses 21 ans. Puis le mariage a eu lieu à Saint-François-Xavier de Bromont. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Une fois mariés, ils se sont installés à Saint-Césaire de Rouville, où M. Choquette était agent de gare, en fait.
Oh!
Voilà. Donc, c'est pour la première partie, sa vie au Québec. Pour la suite, ce sera la vie à Nelson. Pour continuer, donc, après sa vie au Québec, après s'être marié, vers les fins vingtaines, il décide d'aller à Nelson en 1902, en fait. Ce qui l'a attiré là, c'est, avec son frère, c'est la beauté des lieux et la promesse d'une vie meilleure. À l'époque, il y avait des espèces de publicités qui disaient « Venez, venez vous établir au BC ». Ils voulaient peupler pour être sûr que les États-Unis ne prennent pas le territoire. On leur promettait un financement des terres gratuites ou à presque rien. Donc, c'est ça qui l'a fait venir.
Mm-hmm.
Une fois installé, ils ont décidé de partir une boulangerie parce que son frère était boulanger. Elle était située sur le coin Latimer et Joséphine.
Oui, c'est vrai.
Là, pile un peu. Et M. Choquette a tout appris de son frère. Fait que pendant les 8 premières années, il était vraiment l'apprenti de son frère. Il se levait à 4 heures du matin pour préparer ses pains. Quand même, pas 4 heures du matin, c'est pas moi qui ferais ça. Pas pendant toute ma vie, non.
Non, j'ai toujours préféré manger le pain que le faire.
Que le faire, oui. Quand je vois ça, moi aussi.
Faut bien que quelqu'un l'achète.
Ensuite, 20 ans après l'ouverture de la boulangerie, son frère décide de partir pour Slocan en 1922. Et c'est Choquette qui a décidé de continuer l'entreprise sans son frère.
Oui.
Et je vous invite à essayer de deviner combien de pains il a fait en tout, durant toute sa production, tout.
Pendant toute sa carrière?
Oui.
That's all for this edition of Groundwire from CHUO in Ottawa. Thanks for tuning in. I'm Rachel Swantek.
Et je suis Véronique Hines. Groundwire thanks. Groundwire voudrait exprimer ses remerciements à
Sarah Newton, Ophira Horowitz, Catherine Fisher, Brenna Owen, Lynn Chartier, Olivier Charbonneau, and CHUO.
Soyez à l'écoute pour entendre Groundwire sur votre station radio communautaire ou télécharger des épisodes à groundwire.ncra.ca. Groundwire est un projet de l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
Tune in again to hear Groundwire on your local community radio station, or download this and past episodes at groundwire.ncra.ca. Groundwire is a project of the National Campus and Community Radio Association.